RTL équipe, carrément sport. Guillaume Lanel.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le 3w.rtl-l'équipe.fr pour toute l'actu omnisport dans votre matinale de 9h30 à 11h30 avec dès 9h45 dans un quart d'heure maintenant du tennis. Nous reviendrons sur les résultats d'hier à Roland-Garros avec le très bon comportement des joueurs français. La grosse performance tout d'abord de Stéphane Robert qui a sorti le 6e joueur mondial Thomas Berdych au terme d'un marathon exceptionnel en termes d'intensité. À noter également les qualifications, nous y reviendrons, de Gaël Monfils, de Richard Gasquet très convaincant face à Radek Stepanek, de Marion Bartoli ou d'Irina Brémond chez les filles. En revanche, l'aventure parisienne a pris fin déjà pour Aravan Rezaï ou Mika Liodra de leur côté. Les favoris ne tremblent pas, à l'image de Novak Djokovic qui a remporté un 38e succès consécutif ou encore de Roger Federer, impérial hier. À suivre aujourd'hui Nadal, Gilles Simon ou encore Virginie Razzano. Toute l'actu de Roland-Garros, ce sera tout à l'heure avec Clément Grèce. 10h15, un quart d'heure consacré à l'actualité de la balle orange, basket, avec en premier lieu ce match d'appui ce soir, comptant pour les quarts de finale du championnat de France. Gravelines, 4e de la saison régulière, reçoit la Chorale de Roanne, 5e, pour aller chercher une place dans le dernier carré et pour aller défier le champion de France en titre, Cholet. Et dans cette émission, ce matin, on fera monter la température avec Emmanuel Brochot, président de la Chorale de Roanne, et Hervé Bédélem, directeur sportif de Gravelines. Et puis du basket toujours avec de la NBA. Et ça sent bon la finale pour les Dallas Mavericks, victorieux cette nuit d'Oklahoma City en finale de la conférence Ouest. Dallas qui mène désormais 3 victoires à 1, une équipe qui semble inarrêtable. Nous en reparlerons avec Armel Lebescon, d'autant plus que la star de cette équipe, Dirk Nowitzki, évolue à un niveau absolument exceptionnel. 10h45 du judo, nous prendrons des nouvelles tout à l'heure de notre médaillé des Jeux Olympiques de Pékin, Stéphanie Possamay, qui connaît véritablement une saison 2011 très compliquée, tant sportivement que physiquement, de mauvais augure évidemment. À 3 mois des championnats du monde au Pôle Omnisport de Paris-Bercy, Stéphanie Possamay répondra à nos questions tout à l'heure dans cette matinale. Avant de parler football avec cette rumeur qui prend de l'importance, outre-Manche, l'intérêt de Manchester United pour le milieu de terrain d'Arsenal. Milieu de terrain qu'on connaît bien, Samir Nasri qui vient de connaître une nouvelle saison blanche avec les Gunners, même si on sait que l'ancien Marseillais aimerait bien jouer en Espagne ou en Italie. Alors faut-il prendre cet intérêt mancunier au sérieux? Nous essaierons d'y voir un petit peu plus clair tout à l'heure. 11h15, dans le dernier quart d'heure, vous entendrez Tipeee, Tony Parker, le meneur de jeu de l'équipe de France de basket et des Spurs de San Antonio, qui était l'invité ce matin d'Yves Calvi dans la matinale d'RTL. Et puis en toute fin d'émission, nous prenons la direction de la Porte d'Auteuil pour un premier suivi des premières rencontres de cette 3e journée à Roland-Garros. Soyez les bienvenus, c'est votre matinale sport, 9h30 à 11h30. Et puis à 11h30, vous n'oubliez pas toute l'actualité rugby jusqu'à 12h30, carrément rugby en compagnie de Clément Grèce.
Carrément sport sur RTL l'équipe, Guillaume Lanel.
Allez, 9h47, vous êtes bien connectés au www.rtl-l'équipe.fr. Tout d'abord pour toute l'actu tennis, Roland-Garros, c'est la 3e journée. J'entends à côté de moi Clément Grèce en train de râler. Salut Clément.
Comment ça va, Guillaume?
En train de râler parce que vous auriez aimé un 100% français, 100% de victoire hier.
Ouais.
Bon, c'était compliqué quand même.
Oui, j'étais un petit peu ambitieux, c'est vrai.
Oublié qu'il y avait, Benoît Paire qui jouait, il y avait,
Benoît Paire,
des joueurs qui n'avaient pas beaucoup
si
de chance.
Pas si mal résisté face à Victor Anescu, alors qu'on pensait qu'il allait prendre une doudoune comme il avait pris la semaine précédente à Nice.
0-6-1,
ouais. Non, c'était mieux.
Alors, la perf du jour, évidemment, et c'est en une de votre quotidien sportif, on en parlait, c'est Stéphane Robert, premier exploit tricolore de cette quinzaine. Clément, il est 140e joueur mondial. On n'oublie pas qu'il était 63-64e il y a un an, en février 2011. 61e après, notamment, une bonne performance à Johannesburg, puisqu'il avait battu David Ferrer, l'Espagnol.
Mais il avait réussi un super début de saison, on s'en souvient, il était arrivé avec l'Open d'Australie, notamment, et avec des ambitions. Puis c'est vrai qu'ensuite, il a changé de structure autour de lui, il a décidé de gagner en autonomie. Il avait un petit peu disparu des radars et finalement il revient bien. Il a réussi à se prendre en main et il a réussi hier une superbe perf qui a véritablement enthousiasmé Roland-Garros, parce que c'est vrai qu'on attend ça. C'est aussi ça, Roland-Garros, c'est évidemment le duel Novak Djokovic, Rafael Nadal, c'est évidemment les stars, les Français, les Roger Federer, tous ceux qui peuvent gagner Roland. Mais c'est aussi ces belles histoires, ces histoires des premiers tours, des deuxièmes tours, ces histoires de première semaine en fait, véritablement sur des courts qui sont pas forcément les cours sur lesquels on se précipite, mais comme quoi il y a des très très belles histoires. Et c'est vrai que Stéphane Robert hier, eh ben après avoir perdu les deux premières manches, on se disait pas qu'il allait réussir effectivement à renverser la montagne Thomas Berdych, qui est quand même un joueur du top 10, qui a quand même été demi-finaliste à Roland. Et pourtant, eh ben il a réussi un renversement de situation absolument exceptionnel. On joue le tennis de sa vie en lâchant tous ses coups. Patrick Mouratoglou, ce matin dans l'équipe, explique qu'il lui fait un peu penser à Santoro, c'est-à-dire très agressif tout le temps sur les deuxièmes balles de Thomas Berdych. C'est vrai que face à un serveur de la trompe de Berdych, on a assez peu de chances de remporter les points sur les premières balles adverses. En revanche, il faut savoir attaquer les deuxièmes et il l'a particulièrement bien fait. Il a été solide. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Berdych qui disait à l'issue de la rencontre, et je pensais pas que quand on est au-delà de la place de centième mondiale, on pouvait jouer aussi bien au tennis.
Ouais, le match de
je trouve que ça résume assez bien.
C'est vrai, il a été impeccable pour avoir vu la cinquième manche. J'étais assez impressionné dans la manière où Robert vraiment a dominé les débats et a maîtrisé son sujet avec beaucoup d'agressivité.
9-7,
vous l'avez dit. 9-7 dans la cinquième manche, c'était le jour des premières. Hein. Première victoire à Roland pour Stéphane Robert. Première victoire en cinq manches et première victoire contre un.
Contre un top 10, exactement. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont réussi à gagner face à des top 10 à Roland-Garros. En tout cas, des Français classés au-delà de la centième place. Il y a Nicolas Coutelot qui l'avait fait en 2003.
Ça remonte. Hein.
Il y a Jérôme Hénel, on s'en souvient, en 2004 face à André Agassi.
En trois manches, s'il vous plaît.
Une année 2004 qui avait été particulièrement riche avec aussi Olivier Mutis qui, au deuxième tour, avait battu Andy Roddick, même si c'est un peu plus simple sur terre battue face à l'Américain. Jérémy Chardy l'avait fait aussi face à David Nalbandian en 2008 et donc Stéphane Robert cette année face à Thomas Berdych.
Et il a savouré ce moment, évidemment. Stéphane Robert au micro RTL. L'équipe d'Eric Silvestro.
C'est vrai qu'une performance comme celle-ci, ça prend beaucoup de place dans l'esprit. Donc c'est vrai que c'est énorme. Maintenant, voilà, mon parcours, il est ce qu'il est. J'ai perdu des matchs, j'en ai gagné ici. Bon, dans le tableau, c'est la première, mais en qualif, j'avais fait quelque chose déjà auparavant. Donc c'est ça aussi l'histoire de Roland-Garros, c'est que des fois il y a des surprises énormes et aujourd'hui c'est une grosse surprise. Maintenant c'est quelque chose que j'ai parfois du mal à gérer, donc là c'est vrai que c'est une satisfaction pour moi d'arriver à produire mon meilleur tennis et à tenir le choc mentalement, de rester dans la partie, de rester performant, c'est vrai que c'est génial. Ouais.
Voilà, génial, comme le dit Stéphane Robert, qualifié pour le deuxième tour, donc pour la première fois de sa carrière à Roland. Ce sera un Italien. Fonini, vous rappelez de ce match l'année
Fabio
dernière?
Fabio Fonini, ouais, on s'en souvient bien.
Face à Gaël Monfils. Il a terminé à 23h47, il ne voyait plus la
balle. Un match horrible.
En termes de qualité de jeu, horrible. Ouais. Et remporté, faut-il le rappeler, par Fonini. Voilà, ça passe
j'ai
pour
un
Robert.
Doute, Guillaume,
ça,
c'était Fonini ou Volandri?
Non, c'était Fonini.
C'était Fabio Fonini.
C'était Fonini, ouais. On s'en rappelle bien de ce match complètement fou. Volandri qui rencontrera d'ailleurs en France et on en reparlera tout à l'heure. On parle de nos autres tricolores qui sont passés, deux de nos mousquetaires d'ailleurs qui sont qualifiés pour le deuxième tour, Gaël Monfils et Richard Gasquet, dans la souffrance pour le premier et de manière beaucoup plus autoritaire et avec la manière pour Richard Gasquet.
Ouais, alors voilà, il y a deux conclusions très différentes à tirer pour les deux joueurs. Il y a d'abord la satisfaction de voir un Richard Gasquet qui est redevenu le Richard Gasquet qu'on avait aimé, le Richard Gasquet top 10 et qui était qualifié pour le Masters. C'est un Richard Gasquet conquérant. Tout le monde disait que ce premier tour était un tour piège face à Radek Stepanek. Il me semble avoir dit hier, Guillaume, que...
J'étais sûr. J'ai regardé le match hier chez moi, je me suis dit... Il va me la ressortir demain.
Bah voilà, mais
c'était un bon premier tour.
C'est un bon premier tour pour se mettre en confiance.
Ouais.
C'est un sérieux
client.
Je
suis assez d'accord.
Et à la fois,
il a vieilli. Hein.
Et à la fois, Radek Stepanek, c'est plus Radek Stepanek.
C'est-à-dire,
physiquement, il est plus là. Ouais, il a quand même un jeu très offensif qui est sur terre battue et forcément un petit peu limité. Et pour un tireur de passing de la trempe de Richard Gasquet, c'est quand même assez idéal. Et résultat, il a un peu prouvé qu'on s'était pas trompé tous les deux sur la physionomie de cette rencontre. Après un début de match accroché avec forcément un petit peu de pression et puis Radek Stepanek qui est encore au sommet de sa forme physique dans cette rencontre, eh bien Richard Gasquet a réussi à passer la surmultipliée et tout simplement à dérouler tranquillement pour finalement s'imposer 6-0 dans la troisième manche.
Tranquille.
Ça c'est parfait. Ça veut dire de la confiance, ça veut dire pas trop de temps passé sur le court. Bref, pour Richie, c'est tout simplement idéal. Il aura un deuxième tour un petit peu plus compliqué face à un espagnol granoleur, en l'occurrence, a priori dans les cordes quand même de Richard Gasquet, même s'il faudra sans doute s'attendre à un petit peu plus d'échanges du fond du court. Et puis, c'est vrai que l'autre match, on l'attendait aussi.
Écoutez, tiens, quelques instants, Richard Gasquet, et après on parle de la montre. Gasquet convaincu de son entame face à Radek Stepanek. La victoire, vous le rappeliez, 7-5, 6-3, 6-0.
Ouais, c'est sûr, je suis soulagé. C'est toujours des matchs difficiles. Les premiers tours, on est toujours à la recherche de repères. Donc, ouais, je suis très heureux d'avoir pu gagner contre Stepanek, qui est quand même un bon joueur. Donc, ouais, je suis content. J'ai pas perdu mon service. J'ai été solide sur mes retours. Du fond, j'ai pas trop fait de fautes. Voilà. Je me sens pas mal, ouais, fort. Tu sais que tous les joueurs sont difficiles là-bas. Tu sais qu'il faut batailler pour gagner les matchs. Mais en tout cas, je me sens bien. J'ai bien joué à Rome, tout ça. Donc, depuis le début de la saison, c'est pas mal. Donc, je me sens pas mal et je suis prêt à continuer, en tout cas, à tout donner.
Voilà, tout donné pour le prochain tour, notamment face à un Espagnol, Granollers. Pour mon fils, ça a été vraiment compliqué. Entame timorée pour Lamont face à Björn Faux, 4-6, 6-3, 7-5, 6-0. On n'est toujours pas rassuré au sujet de l'ancien demi-finaliste ici à Roland.
Oui, face au 145e mondial, un Allemand qui a du talent, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. C'est vrai qu'on attendait Gaël Monfils comme un test. On sait que sa préparation à Roland a été assez perturbée par la blessure, par un petit problème de manque de confiance, pas beaucoup de résultats en ce début de saison. Du coup, il arrivait avec un point d'interrogation au-dessus de la tête. Et ben, ce point d'interrogation, il l'a très clairement pas enlevé. Il nous a un petit peu ennuyé, disait l'équipe. C'est vrai que c'était pas très excitant, pas très emballant. Il a fait du bon fils, c'est-à-dire qu'il a renvoyé. Alors, comme il a une couverture de terrain exceptionnelle, ça a suffi à déborder Björn Faux. Il a fini par accélérer en fin de rencontre en portant 6-0 la quatrième manche. Mais c'est vrai que c'est pas très très rassurant. Va falloir qu'il change, va falloir qu'il évolue, va falloir qu'il fasse grandir son tennis dans ce tournoi pour espérer aller loin. Alors c'est vrai qu'il a été un petit peu aidé par le tirage au sort, parce que au prochain tour ce sera Guillaume Ruffin qui a sorti Adrian Manarino, on s'en souvient, au premier tour. Et puis ensuite il aura normalement encore un match dans ses cordes, puisqu'il prendra le vainqueur, s'il se qualifie bien sûr, de la rencontre entre Pechner l'Allemand et Steve Darcis le Belge qui a sorti Michael Liodra. Donc a priori il a encore deux tours véritablement dans ses cordes avant de se frotter ce qui se fait quasiment de mieux sur terre battue, puisque c'est David Ferrer qui est dans sa partie de tableau. Voilà, il a la possibilité d'avoir un tableau qui lui permet de monter, d'aller crescendo dans ce tournoi. Je ne veux pas falloir qu'il traîne trop, parce que derrière il y aura du lourd.
Non, c'est clair. Pour Gaël Monfils, donc qualifié en 4 manches face à Björn Faux. Aventure parisienne déjà terminée en revanche, et vous en parlez à l'instant, pour Michael Liodra, en dedans très clairement face à Steve Darcis, et déjà objet d'une petite polémique hier sur les cours de Roland.
Alors le problème avec Michael Liodra, c'est que on est quelques-uns à penser que si la finale de la Coupe Davis qu'il n'a pas joué a pu être un déclic pour Richard Gasquet, la finale de Coupe Davis qu'il a joué a été un déclic, mais dans le mauvais sens, pour Michael Liodra, qui s'enterre tout simplement depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. À l'image de cette rencontre hier, effectivement, face à Steve Darcis, il gagne le premier set 7-6, et puis derrière, le Belge déroule 6-3, 6-3, 6-3. On connaît un Michael Liodra qui est capable de très belles choses sur le court. On sait aussi qu'il est un petit peu fantasque. Il nous a offert la première polémique de Roland Garros en disant des propos déplacés vis-à-vis de
l'arbitre de la rencontre, qui est marocain,
pas forcément raciste, voilà, on n'est pas au souk ici, etc. Une polémique qui a été éteinte et par l'arbitre de la rencontre et par Michael Liodra à l'issue de ce match.
On entendra dans le journal dans quelques
minutes. Mais voilà, tout ça pour dire que globalement, Michael Liodra, il n'est pas dans ses baskets en ce moment, et va falloir qu'il se ressaisisse lui aussi, parce que c'est quand même mal parti pour cette saison 2011, et pourquoi pas pour la suite de sa carrière.
Défaite donc pour Michael Liodra, qui fête d'ailleurs ce mois-ci ses 31 ans. Au passage, Florent Serra qui prend 3-7 face à Igor Andreev, Benoît Paire qui s'incline en 4 manches face à Victor Anescu, ancien quart de finaliste de Roland-Garros. Un petit mot très rapidement sur les favoris, nos deux favoris qui jouent hier. Ça passe pour Federer, ça passe pour Djoko, une nouvelle fois impérial, et dites 38 maintenant pour Novak Djokovic. Hein. 38
Djoko,
victoires d'affilée.
Impérial, on va le dire comme ça, face à Timo Debaker,
qui est un client
mais qui réussit un début de saison pourri. Il a été exceptionnel, franchement. Moi, j'ai regardé les deux premiers sets de la rencontre. C'était très, très fort de la part de Djokovic. Et zéro alerte, très serein, bref, nickel. Quant à Roger Federer, face à Feliciano Lopez, qui lui avait posé des problèmes cette saison, et notamment sur terre battue, on a vu un Roger Federer tout petit peu tendu dans le premier set, mais qui ensuite a fait parler sa classe. Voilà, deux premiers tours intéressants en tout cas, mais c'est vrai que la palme de la conviction, elle est pour Novak Djokovic, qui a été ahurissant. Franchement, ahurissant.
Et qualifié pour le second tour, évidemment, fort logiquement. On passe un petit peu aux filles.
Oui,
très joli d'ailleurs dans ce tournoi de Roland-Garros. Alors, on rappelle la défaite d'Arin Van Rijsselaay.
En début de programme.
Est-ce qu'elle est aussi importante que cela ? Certainement pas, vu le contexte actuel. La bonne nouvelle nous vient du côté de Marion Bartoli, qui a su réagir après une entame catastrophique face à Tatishvili.
Oui, la géorgienne, effectivement. Petit problème pour Marion Bartoli. On rappelle qu'il y avait des doutes sur sa participation à Roland, puisqu'elle avait déclaré, elle avait abandonné en finale du tournoi de Strasbourg. Petit problème à la cuisse, visiblement ça va mieux, même si en début de premier set, on a cru que c'était la catastrophe pour Marion Bartoli, qui s'est ressaisie, qui a aimé son attitude. Nous, on n'a pas forcément adoré son tennis, mais c'est vrai que voilà, il y a aussi un point d'interrogation sur la tête de Marion Bartoli. C'est un petit peu mieux, c'est aller progressivement mieux dans cette rencontre, mais voilà, faut pas faire d'elle non plus la grande favorite des Turcs tricolores, parce que ça va être plus difficile au fur et à mesure du tournoi.
Et puis la petite qualification d'Irina Brémond.
Oui, ça c'est bien,
russe,
sa première victoire
naturalisée française, ouais. Et première victoire effectivement
même.
Biélorusse.
Ouais, naturalisée il y a 4 mois.
Alors je sais pas contre qui elle jouait, mais
elle jouait contre Rodina, la russe.
Qui doit avoir et non pas Radionova,
non,
c'est bien Rodina.
Rodina, 81e joueuse
mondiale. Je dis n'importe quoi alors, c'est Radionova. Oui, c'est Radionova. D'accord, je sais pas quel âge elle a d'ailleurs cette joueuse, mais alors, elle a un visage de j'ai l'impression qu'elle a 14 ans et demi, 15 ans.
Ah bah non, en fait
non,
c'est pas
d'accord.
Possible.
Ok, elle en a 31. le programme de la journée, avec les Français, ils sont 6. Prodon face à Murray, bonne chance. Hein,
oui, c'est ça.
Prodon. Clément face à Volandri, justement, on en parlait tout à l'heure de l'Italien. Roger Vasselin face à Rosol, le Tchèque. Mahut, ouais. Qui n'est pas un spécialiste, loin de là, de la terre battue, face
non,
à Anderson.
Non,
l'Africain du Sud, c'est pas non plus un spécialiste. Charny face à Dimitrov, ça c'est l'un des petits prodiges, le Bulgare, on dit ça depuis quelques,
ouais, ça
années.
Quelques années.
Et puis Simon face à Russell, a priori, pas de problème pour l'actuel.
Bataille de fond
18. Huitième joueur mondial.
Il adore jouer contre Russell et il explique que il y a toujours des bons marathons face à l'Américain. Tu aimes bien rester au fond du cours. Donc c'est une filière qui plaît à Gilles Simon. En revanche, on peut s'attendre peut-être à un match qui va durer, peut-être gagné en 3-7 par Gilles Simon, mais un match qui peut durer 2h30, 3h, voilà, avec des sets accrochés.
Avec le marathonien Gilles Simon, pour Rafa, a priori, pas de soucis face au gros serveur John Isner. Hein.
Ce sera embêtant pour Rafa qui va pas pouvoir prendre ses marques face à un joueur comme John Isner, mais il finira par gagner cette rencontre.
Et puis à suivre également à partir de 11h l'entrée en lice forcément un peu particulière pour Virginia Razzano, hein, qui va jouer son premier match de cette édition 2011 de Roland-Garros.
Ouais, on rappelle qu'elle a perdu son entraîneur et surtout son compagnon la semaine dernière, son compagnon qui lui avait demandé avant de mourir d'une tumeur au cerveau de participer à ce Roland-Garros. Virginia Razzano n'aborde donc évidemment pas ce tournoi dans les meilleures conditions. Elle est en début de programme sur le Philippe Châtrier, sans doute pour éviter qu'il y ait trop de monde sur le court central, pour éviter de lui mettre trop la pression. Elle joue face à une Australienne, Gaïs Dosova. De toute façon, le résultat sera anecdotique. Virginia Razzano vient ici pour respecter la mémoire de son compagnon. Elle est soutenue par l'ensemble de l'équipe de France. Elle est soutenue notamment par Alizé Cornet.
Et porte un ruban noir.
Voilà,
on le rappelle.
Toute l'équipe de France porte un ruban noir. Irina Brémond,
qui a intégré
cette équipe de France il y a 4 mois, portait elle aussi un ruban noir. Et voilà, la seule chose qu'on peut espérer pour Virginia Razzano, c'est qu'elle puisse, comme elle le souhaite, rendre hommage à celui qui a partagé sa vie pendant de longues années. Et qu'elle ne sorte pas trop détruite de cette rencontre face à Gaïs Dosova.
Ce sera à partir de 11h, un Razzano face à Gaïs Dosova, donc ouais, dans une heure pile. On n'oublie pas Mladenovic, l'une des joueuses françaises également, face à Morita.
Ouais,
Caroline Garcia, la grande première pour Caroline Garcia face à Ondraskova. Et puis voilà, tous les Français que l'on citait.
Et Stéphanie Forêt aussi.
Stéphanie Forêt, ça joue aujourd'hui.
Non, c'est en double.
D'accord, on suivra ça quand même. Kukushkin, il a gagné
Pauline
hier.
Parmentier.
Oui, Kukushkin
a gagné. Quand j'ai lâché le match de Kukushkin, il menait 2-7 et break.
Alors donc, ça a donné quoi, Kukushkin, parce qu'on l'a suivi ce match hier, hein. C'était vraiment le
Kukush,
l'un des matchs importants.
Bon,
on aura le temps d'en reparler évidemment sur cette
rencontre. Kukushkin, 2-4-4 face à Daniel.
Il a gagné.
Ouais.
Il a gagné, Kukushkin. Bon, c'est notre petit chouchou évidemment. Merci Clément. Et on se retrouve tout au long de l'après-midi pour.
Il va jouer Yuzny.
Ça va être difficile.
Ouais, plus dur.
Yuzny qualifié en 3 manches hier. Merci Clément.
Merci à
tout à l'heure. Carrément rugby,
ouais.
Évidemment. 11h30, 12h30, et puis tout au long de l'après-midi, Porte d'Auteuil pour Roland Garros.
Carrément Sport sur RTL L'Équipe. Guillaume Laniel.
Alors on va parler basket français, comme on vous l'a promis dans le sommaire en préambule de cette émission, avec beaucoup de choses à dire évidemment. Vous le savez, en ce moment ce sont les playoffs, un petit peu à l'image de la NBA, playoffs de Pro A, avec un premier qualifié, Cholet, qui a déjà décroché il y a quelques jours maintenant sa place pour le dernier carré, et qui pourra aller défier Cholet, qui est le champion de France en titre et le grand favori pour succéder lui-même, tout simplement. Et bien ce sera soit Gravelines, quatrième à l'issue de la saison régulière, soit la Chorale de Roanne, qui a terminé cinquième à l'issue de cette saison régulière. On en parle ce matin, notamment avec Hervé Bédélem, qui est avec nous, le directeur sportif de Gravelines. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, j'allais dire très très bien, mais au fur et à mesure, il y a la pression du match qui nous tombe sur les épaules. C'est un match à enjeu, c'est un match important, parce que ce soir, soit Rouen, soit Gravelines Dunkerque,
ouais,
auront fini leur saison. Donc vaut mieux. Ce serait dommage de terminer comme ça. Donc c'est à domicile ce soir, on a la chance d'avoir la belle, et j'espère que notre club l'emportera.
6 points d'avance sur le match numéro 1, Hervé, hein, pour votre équipe. On le rappelle qu'il avait gagné 66-60. Le match retour à Rouen, évidemment, remporté par la chorale entraînée par Jean-Denis Choulet de 8 points. C'est ce qu'on appelle également une vraie série âpre et disputée dans ces playoffs. Hein.
Oui, c'est un vrai combat, que ce soit à Gravelines à l'occasion du premier match ou à Rouen. Les équipes se sont rendues coup pour coup. C'est très chaud, c'est très disputé. Et ce soir, ça promet également encore une fois un très beau combat.
Un très beau combat à partir de 20h30 ce soir, hein, pour ce match 3, ce match d'appui des quarts de finale du championnat de France. La pression, vous diriez qu'elle est sur vous quand on sait que vous jouez à domicile devant un public qui va être tout acquis à votre cause, Hervé?
Oui, la pression elle sera un peu plus sur nos épaules puisque là, Rouen vient en n'ayant rien à perdre. Nous, on a vraiment plus la pression. Par contre, les joueurs du BCM se sont battus malgré la défaite à Rouen et ils auront à cœur devant notre public de gagner ce soir parce qu'on a une revanche à prendre sur cette équipe de Cholet qui nous avait battu l'an dernier en demi-finale des playoffs. Et les joueurs l'ont bien en tête. Comme on a une ossature à 80% identique à l'année dernière, les joueurs ne l'ont pas oublié. Ils veulent y retourner.
Il y aura un match dans le match, intéressant également, hein, du côté de nos joueurs, Hervé, et un match dans le match qui va intéresser et passionner tous les fans de basket, c'est Yannick Bokolo et Pape Philippe Amagou, certainement les deux meilleurs meneurs de la Ligue actuellement. Deux joueurs qui sont connus au Mans et qui, c'est vrai, sont en train d'atteindre pratiquement leur meilleur niveau actuellement. Hein.
Ah, c'est vrai. J'en parlerai d'autant mieux pour Yannick qui évolue chez nous depuis 3 ans et qui est en pleine progression. Ce même Yannick méritait le titre de MVP à mon sens.
Deuxième, on le rappelle, Hervé, derrière Michael Gelabal de l'ASVEL.
Oui. Et je pense que Michael Gelabal a eu le titre de MVP parce que Yannick malheureusement s'est blessé et a été absent des parquets pendant 4 bonnes semaines. Mais s'il n'avait pas eu cette blessure, sincèrement, vu son engagement, vu ses qualités physiques, il méritait le titre.
Ouais, bah ce sera pour une prochaine fois, on l'espère, pour Yannick Bokolo qui confirme effectivement son incroyable talent et on le verra ce soir pour mener le jeu de votre formation et on le verra avec l'équipe de France également pour le prochain championnat du monde puisqu'il fait partie des 24 sélectionnés par Vincent Collet. C'était pas le bon calcul, j'ai envie de dire ça de manière un petit peu ironique, Hervé, pas le bon calcul de faire 3 manches parce que derrière il y a Cholet, champion de France en titre, grand favori à aller défier. Cholet qui est déjà qualifié depuis 4 jours, donc Cholet aura l'avantage du terrain et en plus 4 jours de récupération en plus. Hein.
Oui, effectivement. Mais après, certains coachs vous diront que c'est peut-être mieux de rester en rythme et dans les matchs plutôt que d'avoir une trop longue attente. Donc, il y a des pour, il y a des contre. Le tout, c'est de gagner et rester dans la dynamique de la victoire. Et après, aller les affronter 3 jours plus tard, je pense que c'est pas gênant.
Vous me rappelez, Hervé, pour le parcours de Gravelines lors de la dernière semaine des As?
On a eu la chance de battre Rouen en quart de finale. Après avoir été dominé de 15 points à la mi-temps, on gagne de 16 points. En demi-finale, on a battu l'équipe de Pau-Orthez. Et en finale de la semaine des As, on a eu la chance de battre Chalon et de gagner notre premier trophée de la saison 2010-2011.
Oui. On le rappelle, victoire lors de la semaine des As, effectivement, du côté de Pau, terre mythique du basket français, s'il en est.
Et je me permettrai, puisque j'ai la parole,
permettez-vous
de dire que dans le Nord, actuellement, ça sourit au club des sports collectifs, puisque le LOSC vient faire le doublé, et nos voisins de l'USDK Handball viennent de gagner la Coupe de France à Bercy. Donc,
Dunkerque, hein. Ouais, on le rappelle pour
Dunkerque,
les auditeurs.
Ouais, c'est ça. L'USDK, donc on a ouvert la voie avec la semaine des As, mais si on peut faire comme le LOSC, faire un doublé, on va pas s'en priver.
Ça je suis bien d'accord. S'il y a semaine des As, c'est demi-finale dans le championnat de France, est-ce qu'on parlera d'une saison déjà réussie pour Gravelines Dunkerque?
Ah bien entendu, complètement, ouais. Vous avez raison.
On n'est pas loin du doublé, quelque part.
Ah ben, l'an dernier, on avait eu la chance de gagner le premier match à Cholet en demi-finale, d'échouer malheureusement dans le match retour chez nous. Mais je vous dis, hein, l'ossature est à 80% la même que l'an dernier et les joueurs ne réitéreront pas la même erreur que l'an dernier.
Il y a quelqu'un qu'on connaît bien ici sur l'antenne d'RTL Équipe qui va pas être tout à fait d'accord avec cette éventuelle accession pour les demi-finales du championnat de France. Vous restez avec nous, Hervé. On a un grand plaisir à accueillir quelqu'un que vous connaissez bien. C'est le président de la chorale de Rouen qui est avec nous, Emmanuel Brochot. Bonjour, Emmanuel.
Oui, bonjour.
Je crois que vous vous connaissez bien, messieurs, et que j'ai pas besoin de faire les présentations.
Bonjour, Emmanuel.
On parle un petit peu, Emmanuel, avec Hervé, de cette rencontre ce soir, ce match d'appui. Alors, Hervé reconnaissait que la pression était un petit peu plus, c'est vrai, sur le club de Gravelines, puisque Gravelines joue ce soir à domicile. Dans quel état d'esprit on aborde cette rencontre du côté de la Chorale de Roanne, Emmanuel?
Dans un état d'esprit où on vient pour gagner. Je pense, comme Gravelines veut le faire, une place en demi-finale, ça se mérite, et on va aller la chercher. On va la prendre à bras le corps et faire tout pour revenir ce soir avec une qualification en demi-finale.
Je posais la question à Hervé il y a quelques instants. Si Gravelines se qualifie pour les demi-finales, on parlera de saison réussie. Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette victoire en semaine des As pour le club de Gravelines Dunkerque. Je vous pose la question concernant la Chorale de Roanne. On se souvient de ce début de saison fulgurant. Est-ce que s'il y a élimination en quart de finale, ce sera un vrai coup sur la tête quand même après beaucoup de belles promesses en début d'année?
Non, c'est pas un vrai coup sur la tête. Aujourd'hui, ça fait depuis 2007 que la Chorale de Roanne se maintient dans le top 4-5 du championnat. Donc ça, c'est déjà une belle réussite. Après, on peut relativiser un tout petit peu sur cette année où on a fait un premier parcours parfait, et peut-être trop parfait d'ailleurs. Et depuis, on a enchaîné des contre-performances, des blessures. Voilà, maintenant la saison n'est pas terminée. Et j'espère qu'on ira chercher cette place en demi-finale.
Bon, et puis Hervé, il faut respecter la règle qui semble presque écrite maintenant dans l'histoire du championnat de France, en tout cas depuis quelques saisons, comme quoi c'est un champion différent à chaque année. Hein.
Mais ça fait à peu près sept saisons qu'il y a un champion différent. Et on a eu la chance d'être avec justement Emmanuel Brochois à la présidence, le champion de France en 2007. C'était Cholet l'année dernière, et je le dis depuis quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas Gravelines Dunkerque, notre heure est arrivée. Et ça passe par une victoire ce soir contre Roanne. Je suis désolé Manu, mais on est chez nous, et on va tout mettre en œuvre. Et ça y est, vous avez fini sur une bonne note, vous allez gagner le match retour.
Ouais, Emmanuel,
qu'on aura un point d'honneur à aller gagner à Gravelines, parce que ce sera vraiment un exploit, et une grande fierté de gagner ce soir et d'aller en demi-finale.
Et vous l'avez déjà fait en plus en saison régulière.
On l'a déjà fait.
18 décembre dernier, Hervé, il ne faut pas l'oublier.
Il faut quand même qu'on se venge un petit peu de cette grande claque qu'on a prise à la semaine des As.
Ouais, c'est vrai, ça c'est une défaite à faire oublier. Hervé, pour la conclusion.
Sans jeu de mots, on va tourner la page.
Parfait.
On verra cela ce soir, messieurs. Merci d'avoir participé à cette émission, Hervé Bédélem. On vous remercie tout particulièrement. Je rappelle que vous êtes le directeur sportif du club, donc ambitieux. Évidemment, le message est passé, de Gravelines Dunkerque. Et puis Emmanuel Brochon, un grand merci également. Vous qui êtes président de la Chorale de Roanne, champion de France il y a 4 ans maintenant. C'était en 2007. On se souvient de cette victoire au Pôle Omnisport de Paris-Bercy. Merci Emmanuel, merci Hervé. Très bonne journée et très bon match ce soir.
Merci,
il est 10h26 sur votre radio du sport et de l'info.
RTL L'Équipe, 9h30, 11h30, Guillaume Laniel.
Alors, merci une nouvelle fois, évidemment, Hervé Bédélem de Gravelines Dunkerque et le président de la Chorale de Roanne, Emmanuel Brochot. Et nous, on va prendre l'avion, on va filer aux États-Unis pour parler un petit peu des playoffs NBA. On jouait cette nuit le 4e match de la finale de la conférence Ouest entre Dallas et Oklahoma City. Et c'est Dallas qui s'est imposé et qui met un pied de plus en finale NBA. Une victoire après prolongation sur le score de 112 à 105, et ce, sur le parquet d'Oklahoma City. On en parle ce matin avec l'une de nos voix basket, Armel Lebescon. Salut Armel.
Salut Guillaume, bonjour à tous.
Une victoire Armel, alors qu'on perd de 15 points à 4-30 de la fin de la rencontre. C'est un message fort envoyé aux autres prétendants au titre.
Surtout qu'il en reste de moins en moins des prétendants au titre aujourd'hui.
En plus.
Donc effectivement, j'ai l'impression, je ne veux pas se hâter en conclusion, mais j'ai l'impression qu'on se dirige quand même tout droit vers un remake de la finale de 2006, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, un certain Dallas Miami remporté à l'époque par le 8. Quatre victoires à 2, grosse prestation une nouvelle fois de Dallas. Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs à Dallas ces dernières années, vous qui suivez le monde de l'NBA depuis de longues années, Armel, alors que l'on disait cette équipe friable, mentalement friable dans les playoffs, qu'est-ce qui change cette saison?
Beaucoup plus de maturité de la part déjà de son joueur leader et charismatique qui est Dirk Nowitzki. Les changements qui sont intervenus, pour moi, Il y en a eu plusieurs avec des joueurs qui sont arrivés comme Brendan Haywood, comme Jason Kidd au fur et à mesure, Caron Butler qui est blessé, faut pas l'oublier. Si on a parlé souvent de Rudy Gay à travers Memphis qui était absent sur ce playoff, et bien également du côté des Mavericks, on n'a pas Caron Butler qui, rappelons-le, est un All-Star. Mais celui qui, à mon avis, a apporté le plus de dureté dans le jeu et au niveau défense, au niveau dissuasion, c'est Tyson Chandler. Voilà, c'est Tyson Chandler. Je pense que lui, effectivement, il prend beaucoup de rebonds, il peut ressortir les ballons, il est dissuasif dans la raquette. Je pense qu'effectivement, lui a changé la face des choses du côté de Dallas cette saison.
Ouais, et c'est Nicolas Batum qui a conforté cette saison vos propos, hein, ce que vous nous dites actuellement, Armel, en disant que cette équipe de Dallas, on ne la jouait plus comme avant depuis l'arrivée dans cette équipe de Tyson Chandler qui, vous l'avez bien résumé, ramène de la dureté, de l'agressivité, notamment sur les systèmes défensifs. Un mot sur Dirk, le meilleur joueur de Dallas, évidemment. Une nouvelle fois sur une autre planète cette nuit, hein. 40 points et dans le dernier quart-temps, tout simplement inarrêtable, Armel.
Voilà. Eh ben, c'est-à-dire que vous aviez raison tout à l'heure, vous avez dit oui, moins 15, comment on peut perdre un match comme ça? Il restait 4,55 ou 4,58 à jouer à ce moment-là. Il mène de 15 points. Alors, il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de jeu pour expliquer la défaite d'Oklahoma hier soir. Le facteur Dirk Nowitzki qui prend le match à son compte à ce moment-là avec 12 points pour amener. Ils font un run de 17-2 à ce moment-là, les Mavericks, donc effectivement tout leur sourit, mais grâce à Nowitzki. Ensuite, le deuxième facteur, il est d'Oklahoma, il faut le rechercher dans l'équipe d'Oklahoma City, c'est la sortie de James Harden. James Harden a permis effectivement du jeu en transition, du jeu sur pick and roll, et on n'a pas eu ce jeu-là ensuite sur les 5 dernières minutes à partir du moment où il était sorti pour 6 fautes. Et là, donc, on a vu des shoots à mi-distance pris n'importe comment. La dernière possession, on ne peut pas mettre un tir de cette manière. La preuve, c'est que Sean Marion, eh bien, va contrer Kevin Durant sur le dernier shoot. Et on a eu que ce type de jeu sur les 5 dernières minutes d'Oklahoma. Mais les deux facteurs, effectivement, sont donc la sortie de James Harden côté Oklahoma City et puis le match époustouflant, monstrueux de Dirk Nowitzki. Faut-il le rappeler? 40 points, c'est quand même une marque assez extraordinaire quand on est en play-off. C'est la deuxième fois qu'il réalise cette marque de 40 points sur la série contre Oklahoma City.
48 points sur le match 1, on le rappelle, ouais.
Exactement, Guillaume. Et il fait partie des... C'est la septième fois en play-off où il réalise un tel carton. Il rejoint, par exemple, Shaquille O'Neal qui a réalisé 40 points 12 fois en play-off, Kobe Bryant 11 fois, LeBron James 9 fois. Et Dwayne Wade 6 fois. Vous voyez que des top scorers, je parle de joueurs actifs actuellement dans la ligue. Hein. C'est vraiment extraordinaire.
Il est à 33 points de moyenne sur cette série face à Oklahoma City. On en reparlera évidemment demain dans Carrément Basket entre 11h30 et 12h30 avec vous, Armel, et avec Luigi Collonge. Un mot vraiment en 20 secondes, Armel. La dernière chance, est-ce la dernière chance ce soir pour les Bulls de Chicago du Hakeem Noah face à Miami dans la quatrième rencontre de la finale de la Conférence Est?
Oui. Absolument, parce qu'effectivement, les équipes qui sont breakées à 3-1 ont les pires difficultés pour revenir dans la série. Qui plus est, en finale de conférence, revenir de 3-1, je veux dire, c'est monstrueux, c'est très difficile. Donc, c'est une grosse pression qui attend ce soir l'équipe de Chicago à Miami pour revenir dans la série à 2-2. Sinon, ils sont breakés 3-1. Et ça me semble compromis pour la suite.
Ce sera à suivre ce soir, évidemment, hein, ce match 4 et prochain match de Dallas-Oklahoma City dans la nuit de mercredi à jeudi, hein, Armel.
Mercredi à jeudi.
C'est ça. Et après, éventuellement, ce week-end.
Exactement.
Merci, voilà. Armel. Soyez au rendez-vous demain, hein, dans les locaux d'RTL, l'équipe.
En basket demain, 11h30.
Tiens, exactement. À demain, Armel, et très bonne journée.
RTL, l'équipe. Guillaume Lagnel.
Allez, on va passer à 10h50 au football, pas de judo, on peut nous excuser, mais voilà, visiblement Stéphanie Possamaï a oublié notre petit rendez-vous, notre médaillé olympique des Jeux Olympiques de Pékin. On va parler football avec Hervé Penaud de la rubrique Foot au quotidien, l'équipe. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'entraînement de l'Olympique de Marseille, hein, c'est bien
absolument,
ça Hervé ?
Absolument, sous le soleil marseillais.
Bon, vous avez bien de la chance, mais il y a beaucoup de soleil du côté de Paris également en ce moment, donc ne faites pas trop le vénard. Hein. Hervé, On va parler un petit peu de cette rumeur qui rend visiblement de l'autre côté de la Manche, hein, avec le milieu de terrain d'Arsenal et l'équipe de France qu'on connaît bien, Samir Nasri, qui serait, on l'apprend dans les colonnes de l'équipe et dans ce papier signé de votre plume Hervé, la principale recrue, en tout cas la principale recherche en termes de recrutement de Sir Alex Ferguson pour la saison prochaine.
Oui, absolument. C'est l'un des joueurs sur lesquels il compte. Alors, je ne dis surtout pas qu'il va y aller, parce qu'il y a d'autres pistes. Et puis, vous savez, en matière de transfert, il a toujours un contrat d'un an avec Arsenal. Donc, Arsenal peut tout à fait décider de le garder. Mais les négociations pour la renégociation de contrat traînent en longueur. Il n'y a pas de certitude qu'il soit encore à Arsenal non plus. Donc, ça va être... Je dis pas un bras de fer, hein, mais il va y avoir des grandes discussions. Et puis n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui sont sur le coup. Mmh. Mais bon, quand vous avez Manchester, il est évident que vous êtes obligé quand même d'y réfléchir. Mmh.
On sait qu'il n'exclut pas un départ, d'autant plus au vu de cette saison d'Arsenal, hein, saison vierge une fois de plus pour les Gunners. Et puis on sait que Samir Nasri, vous venez de l'évoquer, aimerait bien découvrir également un autre championnat. Hein.
C'est une possibilité. Pour l'instant, vous savez, tout est à l'étude. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a un problème avec Arsenal. Hein. À partir du moment où les clubs se sont renseignés, vont même plus loin que ça, à partir du moment où la renégociation de contrat traîne, c'est qu'il y a un problème, évidemment. Donc, que va faire Nasri, ça va être difficile à savoir, on verra.
Et puis, il y a les petits vieux à remplacer, à remplacer du côté de Manchester United, Hervé, hein, avec voilà, Ryan Giggs, Paul Scholes, tous ces joueurs qui sont évidemment vers la fin de leur carrière sportive maintenant avec Man U.
Oui, ben, là, vous avez Giggs qui commence à prendre de l'âge, même s'il fait une superbe saison encore. Hein, Scholes qui est de la même manière, on est déjà en train de penser à l'après Scholes. Donc, voilà, il faut penser à tout ça. Il y a aussi Snyder qui est sur les tablettes de Manchester. Là, il sait de toute façon qu'il a besoin un peu de reconstituer ce milieu de terrain. Et Nasri, évidemment, aurait sa place dedans. N'oubliez pas qu'il a fait une énorme saison en Angleterre. Il finit deuxième joueur de l'année par ses pairs. Donc ça veut dire un petit peu, ça vous dit un peu l'impact que peut avoir Samir Nasri en Angleterre. Il fait notamment une première partie de saison phénoménale. Après, ça a été un peu moins bon, il a eu des blessures. Et puis, bon, c'est un jeune joueur. Hein. Il va avoir 24 ans.
C'est
donc,
ça.
Il n'avait que 23 ans au début de saison. Donc voilà, c'est tout ça, pour Alex Ferguson, ce sont des gages de sécurité, d'autant plus qu'il connaît déjà le championnat anglais, parce que là, vous n'avez pas le risque d'un joueur qui serait complètement perdu dans ce type de championnat. Voilà. Donc, Nasri est une piste très chaude pour eux. Maintenant, est-ce qu'il ira là-bas? Ça, c'est un autre débat.
Alia, ce matin dans l'équipe Manchester United, piste Nasri, voilà l'une des principales pistes de Sir Alex Ferguson pour la saison 2011-2012. Maintenant, un grand merci Hervé Penaud, merci d'avoir pris le temps.
C'est un plaisir.
À l'entraînement, le rappel du côté de Marseille sous le soleil phocéen. Merci Hervé, très bonne journée et à très vite.
Merci, à bientôt.
Sur l'antenne d'RTL L'équipe. Vous restez avec nous, il est 10h52, on vous rappelle évidemment que nous ferons un petit tour Porte d'Auteuil à Roland-Garros aux alentours tout à l'heure de 11h15, 11h20 pour prendre le pouls des premières rencontres avec notamment Virginie Razzano qui démarre son tournoi de Roland-Garros. On vous rappelle que vous entendrez tout à l'heure à 11h15 Tipeee Tony Parker qui était au micro RTL ce matin à 8h15, Dif Calvi dans la matinale d'RTL. Et puis on vous rappelle également que dans 7 minutes il y aura le 15 minutes d'information sport avec Luigi Collange. Avant cela, 10h53, c'est Leslie Jeune qui est avec nous dans quelques instants.
Carrément Sport sur RTL Équipe.
Oh, c'est incroyable,
le rebond, le coup droit, c'est parfaitement exécuté. Champion olympique
Guillaume Laniel.
Allez, 10h53, on va parler un petit peu athlée aujourd'hui avec Leslie John, notre champion d'Europe en salle du 400 mètres qui sera opéré demain, on le sait, il a été victime d'une rupture du tendon rotulien, il va être avec nous dans 30 petites secondes, on rappelle un petit peu ce qui s'est passé, hein, c'était les interclubs et notre recordman de France du 400 mètres s'est blessé tout simplement au saut en longueur, ce qui n'est absolument pas une spécialité, on le rappelle pour Leslie John, mais voilà, une grave blessure pour celui qui représentait un espoir de médaille, hein, pour les championnats du monde de Daegu, et on va en reparler évidemment avec le principal intéressé, Leslie John, qui est avec nous. Salut Leslie.
Salut.
Bon, il n'y a pas mort d'homme, c'est comme ça que démarre le papier de Marc Ventouillac ce matin. Voilà, comme principale réaction de votre part suite à l'annonce de ce forfait pour les mondiaux et suite à l'annonce de cette opération demain, il y a cette volonté de relativiser, Leslie, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est pas, comme je dis, il n'y a pas mort d'homme. Ça ne sert à rien de refaire l'histoire, c'est fait, c'est fait. Hein.
Alors vous serez absent, hein, on le rappelle, hein, ça c'est désormais certain pour les championnats du monde du 27 août au 4 septembre du côté de Daegu en Corée du Sud, blessé lors du concours de longueur des interclubs. Alors certains auditeurs qui nous écoutent en ce moment se disent mais Leslie John, le saut en longueur, ça n'a rien à voir, c'est un spécialiste du 400 mètres et on l'a vu pendant Bercy avec vos deux titres. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez pour rappeler à nos auditeurs au saut en longueur pendant ces interclubs?
Bon, en fait, c'est quand même l'ambiance des interclubs, c'est de pouvoir aider son club pour aller rapporter le plus de points. Voilà, tout simplement, on m'a demandé de faire la longueur, moi, voilà, j'ai fait, c'est comme ça, c'est un état d'esprit, et voilà, c'est sauver le lieu, quoi.
D'accord. Donc, à aucun moment, vous regrettez finalement, j'ai envie de dire, Leslie, le fait d'être allé à la compétition sur le saut en longueur. Hein.
Si c'est pas ça, ça aurait peut-être été quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est ça, rien de ruminer et d'en vouloir à qui que ce soit. C'est comme ça, c'est le destin.
D'accord. Absence de 6 mois. On rappelle très précisément la blessure. Hein. Vous avez été victime d'une rupture du tendon rotulien, c'est ça?
Oui.
C'est une blessure que vous aviez déjà contractée il y a quelques années?
Non, ça m'a jamais été... vraiment eu de graves blessures, donc c'est la première, quoi.
D'accord. Après, évidemment, ce sera les Jeux Olympiques. Alors, je voulais revenir sur une chose qui était importante, c'est qu'il y a déjà quelques semaines, vous aviez parlé, vous aviez évoqué la possibilité de vous concentrer sur les Jeux Olympiques de Londres en faisant l'impasse sur les Mondiaux.
Voilà, c'est fait.
Hein, finalement, on a pris le choix, on a fait le choix pour vous, à votre place.
Ouais, non, mais au-delà de ça, voilà, c'est même ça fait 13 ans que je fais des championnats, que ce soit chez les jeunes ou en senior, tous les étés, ben voilà, ça sera le premier année où je ferai pas de championnat, ben voilà, je vais bien me préparer et voilà, je préfère que ça arrive mettons que dans 6 mois, et je préfère que ça arrive mettons que 6 mois avant, quoi. Donc voilà, faut avancer et puis faut pas trop regarder derrière.
C'est un petit coup d'arrêt quand même après cette grosse performance au championnat d'Europe en salle de Bercy où vous aviez conquis 2 titres, hein, Leslie. On se dit qu'on aurait bien aimé voir la continuité à Daegu, quoi, qui n'aurait pas été forcément un titre mondial évidemment, mais peut-être un podium ou une finale déjà.
Ouais, non, c'est le truc le plus frustrant, je pense, et sera ouais parce que aux entraînements j'étais bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas été bien comme ça, donc c'est vrai que j'avais de gros ambitions chronométriques. Maintenant, voilà, c'est comme ça. J'ai dit qu'il y a un nouveau Leslie qui est arrivé cette saison. C'est même dans la difficulté, je change pas d'état d'esprit. Je me laisse pas abattre. Bien au contraire, j'ai encore plus les crocs que je l'avais avant, quoi. Je sais que 2012 sera très important et qu'il faudra tout péter.
Vous avez eu un petit mot de la part des entraîneurs, des camarades de l'équipe de France?
Oui, j'ai eu beaucoup de soutien, tout ça. C'est vrai que tout le monde est un peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Comme je dis, il n'y a pas mort d'homme, j'ai pas une maladie incurable. Voilà, c'est clair que c'est embêtant pour ma carrière parce que je voulais continuer sur la lancée de Bercy, mais voilà, c'est un coup d'arrêt de 3 mois sans courir. C'est pas la fin du monde.
Ça va faire une première pour vous, un été sans compétition, sans entraînement.
Sans compétition, ouais, ça va faire vraiment bizarre. Je pense que ça me fait un peu bizarre pendant les championnats du monde et pendant les meetings. Mais sans entraînement, je vais avoir une grosse éducation à faire dès lundi. Donc,
ah d'accord. Dès lundi, c'est rééducation?
Dès lundi, c'est rééducation.
D'accord. Ouais. Avec votre kiné, j'imagine, ouais. D'accord. Ouais. Marc Minchowski, hein, pour Minchowski pour préciser à nos auditeurs. Et puis on rappelle qu'après ce sera cette dernière ligne droite avec les Jeux Olympiques de Londres, hein, en 2012 en compagnie de François Pépin qui est votre entraîneur depuis de longues années maintenant. Vous allez faire le déplacement, ce sera ma dernière question, Leslie, on vous libère. Vous allez faire le déplacement quand même en Corée du Sud à Daegu pour les championnats du monde ou pas?
Je pense pas, de moi-même je pense pas, non. Parce que j'aurais sans doute la rééducation à faire et tout ça, mais je soutiendrai l'équipe de France sans problème, hein, y a aucun souci, mais je pense que voilà, étant pas valide, ma place n'est pas là-bas, quoi.
D'accord. Ce sera, on le rappelle, à suivre sur l'antenne d'RTL l'équipe du 27 août au 4 septembre, ces championnats du monde à Daegu, donc en Corée du Sud. Un grand merci, Leslie John, merci d'avoir de nous avoir accordé ces quelques minutes dans un moment pas marrant, hein, après donc l'annonce de ce forfait pour les championnats du monde et cette opération demain. Beaucoup de courage pour demain justement, Leslie. Bonne récupération, bon travail avec le kiné. On espère vous revoir très vite. Merci beaucoup, Leslie John.
Merci.
Et à très bientôt, 10h59 sur l'antenne d'RTL. L'équipe, on va faire une toute petite pause sur le www.rtl-l'équipe.fr et se retrouver avec Luigi Collange, évidemment, pour le 15 minutes d'information où on va parler football, où on va parler basket américain et basket français, où on va parler tennis, évidemment, avec hier la deuxième journée de Roland-Garros. Et place dans quelques instants, dans maintenant une petite minute, au début des rencontres de ce mardi du côté de la Porte d'Auteuil.
Carrément Sport sur RTL L'Équipe, Guillaume Lagnel.
Voilà, avant d'entendre Tony Parker dans quelques instants, sachez que Virginia Razzano vient de démarrer son premier tour ici à Roland-Garros. Voilà le match qui a démarré il y a quelques petites minutes. 1-0 d'ailleurs pour l'adversaire de Virginia Razzano, la néo-zélandaise Gajdozova. On va prendre de toute façon dans 10 minutes la direction de la Porte d'Auteuil, rejoindre Eric Silvestro pour un premier point sur les matchs en cours. Avant cela, on vous propose de réécouter Tony Parker, Tipeee, le meneur de jeu de l'équipe de France de basket et des Spurs de San Antonio, qui a beaucoup de vacances puisque San Antonio, son équipe, a été éliminée prématurément des playoffs NBA. Écoutez Tipeee, qui était de passage à Paris, au micro RTL d'Yves Calvi. C'était ce matin à 8h15.
Carrément Sport, c'est sur RTL L'Équipe.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. C'est un plaisir de vous mettre, alors l'expression est étrange, mais la main dessus, parce que vous parlez peu, vos passages à Paris ne sont pas si fréquents. Vous êtes là quand même après l'élimination surprise de votre équipe de basket, les Spurs, lors du premier tour des playoffs en NBA. Ma première question est purement affective. Je voudrais savoir si on vous manque.
bien sûr. Moi, j'adore la France. La plupart de mes amis habitent ici. Ma mère habite ici. Donc, c'est clair que ça fait toujours de plaisir de rentrer en France. Et j'ai hâte de commencer avec l'équipe de France et qu'on me voit jouer un peu ici.
Mais quand vous étiez môme et que vous regardiez les matchs de basket à la télé, qu'est-ce que, vu de France, comment vous imaginiez cet univers?
Bah pour moi, c'était un rêve, quelque chose qui était pas possible, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Européens en NBA. Et donc, moi, quand je me levais à 3h du matin pour voir mon idole jouer, Jordan, et je rêvais d'aller jouer là-bas, mais c'est vrai que c'était un peu très très loin. Et une fois que j'ai intégré l'INSEP et que j'ai commencé à progresser, après, c'était plus un rêve, c'est devenu un objectif.
Alors, je le disais, vous êtes une star en NBA, mais le basket français fait vraiment partie de votre ADN, Tony Parker. Vous êtes vice-président de l'ASVEL, Villeurbanne, qui était le grand club, moi, de mon adolescence, dans lequel vous êtes très investi. Cet été, vous organisez un nouveau camp d'été de basket pour les jeunes à Fécamp. C'est important, ces camps pour les jeunes?
Ouais, moi, j'adore mes camps de basket.
Et vous y êtes vraiment?
Ah oui, je reste tous les jours. Matin, midi, soir, je mange avec eux au self. J'adore mes camps de basket, j'adore les jeunes, j'adore voir leur sourire et la joie qu'ils ont de pouvoir jouer avec moi et leur faire partager un peu ma vie en NBA et mes expériences. Et donc, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça et tous les ans, c'est clair que c'est une date importante dans mon calendrier, c'est toujours bloqué.
Quelle est la première chose que vous leur dites quand vous les rencontrez en début de stage?
De rester positif et quoi qu'il arrive dans leur vie, même s'ils ne deviennent pas basketteurs professionnels, qu'il y a plein de bonnes choses dans la vie, il faut profiter, on vit qu'une seule fois.
Depuis quelques jours, il est question d'un mouvement de grève l'an prochain en NBA. Vous avez fait des déclarations indiquant que vous pourriez même venir jouer un peu en France. Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est possible?
Ouais, c'est possible. Après, il faut voir. Il y a beaucoup de si.
Mais ça existe, les grèves aux États-Unis?
Oui, ça existe.
Chez des gens qui gagnent des millions de dollars.
France, vous avez l'habitude en France.
Oui, mais pour d'autres raisons. Ce ne sont pas les mêmes qui font grève.
Là, aux États-Unis, c'est clair que ça arrive rarement. Il y en avait une en 99. Là, il y en aura peut-être une. Mais après, rien n'est dit qu'elle ne va pas durer longtemps, qu'on trouvera un accord assez rapidement et on reprendra le championnat à l'heure. Donc pour l'instant, c'est utopique. Il y a beaucoup de si.
Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'équipe de France au JO de Londres? Allez, laissez parler vos fantasmes.
Il faut qu'on se qualifie.
Oui, on va dire qu'on va se qualifier.
Il faut qu'on se qualifie. Après, tout est possible. De toute façon, on a une équipe avec assez de talent pour faire n'importe quoi.
Donc, ça, vous estimez